Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.
On ne va pas en faire tout un plat. Eh bien si, justement. Notre alimentation est à la fois le reflet et la cause d'une question écologique majeure. Jusqu'à quand va-t-on pouvoir continuer à manger comme nous le faisons? Salut, c'est sur FM+, c'est votre émission mensuelle écolo-protestante entre souffle et humus. Et vous êtes les bienvenus. On ne compte plus les repas dans la Bible. Que ce soit sous le chêne de Mamré où Abraham reçoit ses trois visiteurs, que ce soit Jacob et son plat de lentilles, les banquets à la cour de Pharaon, la Pâque juive mangée à la hâte, le bâton à la main, que ce soit les soi-disant multiplications des pains ou le dernier repas de Jésus, sans oublier, bien sûr, la mendication de cette fichue pomme restée au travers du gosier de vieil Adam, les repas ne se comptent plus. Manger, c'est le lieu du pacte, c'est le lieu de la trahison aussi, c'est le lieu des retrouvailles, du rassasiement, et c'est le lieu de la dégringolade. Manger est vital. C'est d'ailleurs l'objet des tout premiers commandements qui apparaissent dans la Bible. Tu peux manger, mais tu ne mangeras pas. C'est-à-dire que ce que l'on mange, nous ne le créons pas. Ça nous est donné. On peut le chasser, le pêcher, le cueillir, le préparer, le cuire. Mais c'est toujours, vilain mot, un prélèvement à partir de quelque chose qui nous est déjà donné. C'est toujours à partir d'un écosystème plus ou moins équilibré. C'est toujours à partir d'un milieu qui nous précède que nous pouvons puiser ce que nous allons manger. Et avec ce milieu, nous allons entretenir des rapports plus ou moins harmonieux, plus ou moins respectueux et plus ou moins durables. C'est ainsi que cette question se pose dans ce début du XXIe siècle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la planète va-t-elle pouvoir supporter autant d'humains? Autant d'humains affamés d'un côté, autant d'humains repus de l'autre, autant d'humains gavés, autant d'humains malnutris. Il ne s'agit pas pour moi ici de jouer les Cassandres. Il s'agit juste d'écouter le savoir, et j'insiste sur le mot, le savoir de celles et ceux qui connaissent parfaitement l'agriculture contemporaine, puisqu'ils en ont élaboré eux-mêmes les schémas. Ils l'ont façonné. Ils l'ont façonné dans l'urgence, dans un contexte de pénurie alimentaire et de pauvreté paysanne. Ils ont imaginé des méthodes pour augmenter les rendements, pour lutter contre les maladies, pour promouvoir un statut paysan plus enviable. Et tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ils sont aux avant-postes pour déchiffrer, pour démasquer les méfaits des dites politiques. Ce sont par exemple les agronomes du CIRAD. Vous les connaissez bien à Montpellier, puisqu'ils ont leurs locaux pas loin de la route de Mende. Et ils nous disent que nous sommes entrés dans un cercle vicieux entre production hyper-intensive, effondrement de la biodiversité et plus généralement des capacités de la planète, et donc menace pesant sur la production de demain. Le mode de production agricole d'aujourd'hui compromet la production agricole de demain. Retenons juste trois points avec eux, avec ces ingénieurs du CIRAD, pour caractériser cette production agricole directement liée à notre mode de consommation alimentaire. Premier point, nous prélevons trop. Nous épuisons le milieu naturel. Nous prélevons trop d'éléments non renouvelables. Les éléments fossiles, les amendements marins, les potasses par exemple. Nous prélevons aussi trop d'êtres vivants. Vilaine expression, prélever des êtres vivants. Disons que nous pêchons trop de poissons, que nous coupons trop d'arbres. nous consommons trop d'eau. 80% des ressources en eau potable sont consacrées à l'agriculture. Nous prélevons trop. Deuxième point, nous constatons une baisse, que dis-je, un effondrement de la biodiversité. Le modèle d'agriculture intensive qui s'étend de par le monde entier tue les insectes, y compris les pollinisateurs, pourtant bien utiles, tue les oiseaux, puisqu'ils s'en nourrissent. Les pratiques d'agriculture intensive tuent le sol vivant, ces quelques centimètres superficiels, naturellement oxygénés, naturellement vivants, oxygénés en particulier par les lombrics, ces vers de terre qui sont devenus si rares. Alors il faut à chaque fois labourer plus profondément, avec des engins de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, qui tassent de plus en plus le sol. Il faut à chaque fois ajouter, et de plus en plus, des éléments nutritifs artificiels. C'est un cercle vicieux. Et toujours dans la même logique, les progrès de la sélection génétique, qui sont centrés uniquement sur le rendement, ont fait disparaître toutes sortes de variétés. Dites anciennes dans les meilleurs des cas, oubliées le plus souvent. D'où un risque d'épidémie agricole accru, que ce soit des zoonoses ou des maladies végétales. Les variétés qui auraient pu y résister ont disparu et on a concentré toutes les défenses immunitaires dans une ou deux variétés, de sorte que si elles sont déficientes par rapport à d'autres agents pathogènes, tout est compromis. Dans notre région, par exemple, le cas du phylloxéra est évocateur. Les plus anciens s'en souviennent. Sans les variétés anciennes, qui résistaient à la maladie, on n'aurait jamais pu replanter notre pic Saint-Loup. La biodiversité est un gage de résistance, un gage de résistance naturelle à toutes les maladies. Compromettre la biodiversité, c'est faire peser une menace sur la pérennité même de l'agriculture contemporaine. Enfin, troisième point, nous saturons les milieux naturels. Nous les saturons de produits polluants. On pense d'abord au CO2, bien sûr. L'agriculture est un poste majeur dans les émissions de gaz à effet de serre. On estime que si on parvenait à s'affranchir des ressources fossiles, en matière de transport, de chauffage et d'éclairage, par exemple, eh bien, les seules émissions agricoles nous empêcheraient quand même d'atteindre les fameux objectifs de limitation de l'élévation de la température à 1,5°. Et nous ne saturons pas seulement les milieux naturels de CO2, mais nous les saturons aussi d'azote, de pesticides, de polluants dits éternels parce qu'on ne sait pas s'en débarrasser. Le rejet des résidus azotés, par exemple, dans le sol, que ce soit les engrais ou que ce soit artificiel, disons, ou que ce soit les lisiers naturels, le rejet des résidus azotés produit ce que l'on appelle une eutrophisation, une suralimentation, si vous préférez, des milieux aquatiques. Et ça amène les tristement célèbres algues vertes, puantes, toxiques, et qui asphyxient la mer. Et le breton que je suis, je peux vous assurer de l'importance et de la calamité du fléau. Bref, les pratiques agricoles actuelles pillent et empoisonnent la terre et déciment les espèces vivantes. Et ainsi, à terme, elles compromettent la production agricole de demain. C'est pourquoi l'opposition entre écologistes et agriculteurs n'est qu'une opposition artificielle, superficielle, démagogique, manipulée et manipulatrice. Le modèle agricole contemporain n'est plus viable, n'est plus pertinent, parce qu'il n'a pas d'avenir. En d'autres termes, et de façon simple, il scie la branche sur laquelle il est assis. Tourne. Toi.
Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, aussi désormais je puis en jouer. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, aussi désormais je puis en jouer. Chantons et buvons à ce flacon, faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons à ce flacon, faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Buvons bien, buvons, mes amis, très cons. Buvons, vidons nos verres. Buvons bien, buvons, mes amis, très cons. Buvons, vidons nos verres. En mangeant la gras jambon, à ce flacon, faisons la guerre. En mangeant d'un gras jambon, à ce flacon, faisons la guerre. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, aussi désormais je puis en jouer. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, aussi désormais je puis en jouer. Chantons et buvons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons à ce flacon, faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Ton vin nous a rendu gai, chantons. Nous millions de peine, nous chantons. Ton vin nous a rendu gai, chantons.
Si je vous disais soupe de tortue géante, blinis à la Deminoff, caille en sarcophage au foie gras avec une sauce aux truffes, salade d'endives aux noix, fromage, savarin, salade de fruits, fruits frais, baba au rhum. Si je vous disais vin de Xérès, champagne, veuve Clicquot, Clos Vougeot, 1845, fine champagne. Si je vous disais Karen Blixen. Si je vous disais Stéphane Audran, dans le rôle d'une certaine Babette Hirsan. Vous avez trouvé. J'évoquais ce magnifique film, Le Festin de Babette. Ça se passe à la fin du XIXe siècle, dans une petite communauté luthérienne au royaume du Danemark. Un pasteur austère à la caricature. À sa mort, ses deux filles, enfermées dans un ascétisme qu'elles imaginent évangélique, se dévouent pour les pauvres. De l'amour, elles n'ont connu que les gestes interdits et les peines de cœur programmées par un père trop possessif. Et voilà que frappe à leur porte une Française qui fuit les persécutions après la Commune de Paris. Elle n'a pas un sou, juste un billet de recommandation, sait faire la cuisine. Elle a faim, elle a froid. Les deux sœurs la font entrer, lui confient la cuisine contre un hébergement. Et puis un jour, cette Babette apprend qu'elle a gagné à la loterie nationale 10 000 francs, une somme considérable pour l'époque. Eh bien, Babette va consacrer ses 10 000 francs, leur totalité, à la confection d'un festin pour cette petite communauté danoise. Plusieurs jours de travail pour imaginer le menu, pour trouver les ingrédients, pour les assembler, les préparer. Un don total pour que l'emporte la convivialité, le plaisir qui délie les langues, qui ouvre une brèche dans un monde d'interdits. Manger, ce n'est plus seulement satisfaire un besoin biologique, répondre à une exigence nutritionnelle. Manger, ça devient un rapport au monde, un rapport à l'autre, un rapport à soi, un rapport à Dieu. Et avec le théologien Pierre Buller, théologien protestant que vous connaissez bien, je dirais que le repas, c'est une parabole du royaume de Dieu. Je vous mettrai en référence, ou du moins les références de cet article de Pierre Buller sur le site d'FM+. Autrement dit, il y a quelque chose d'humanisant dans l'acte de manger. Le manger humain ne se réduit pas à un se nourrir naturel. Le manger humain excède l'acte naturel. Le manger humain nous rend un peu plus humains. Et ce n'est donc pas le fait de manger qu'il faut mettre en question comme s'il était problématique. Mais ce sont bien plutôt les modes de production et de distribution agroalimentaire. Qu'on pense par exemple aux méga-fermes qui utilisent, et j'emploie le terme à dessein, qui utilisent des milliers d'animaux, les parquent dans une même usine et les réduisent à n'être que des machines biologiques. Les méga-fermes se définissent elles-mêmes comme des usines à protéines. On en oublierait presque que ce sont des animaux qui y vivent et qu'ils y vivent dans des conditions bien inhumaines. C'est-à-dire dans des conditions de cruauté qui sont indignes de notre statut d'humain. On ne peut pas se considérer comme un être humain si on n'est pas capable de considérer les animaux, qui sont des êtres sensibles, en respectant leur bien-être, en les respectant dans la saisonnalité de leur rythme, dans leur mode de vie naturel, brouter, être en troupeau, se reproduire. On ne peut pas se considérer comme humain si on n'est pas capable de considérer ces animaux avec respect. La nature, et tout particulièrement les animaux, sont à considérer comme une altérité respectable, sous peine de nous voir nous déshumaniser. Oh, bien sûr, d'un point de vue purement biologique, demeurent les chaînes alimentaires, parfaitement naturelles, avec les proies et les prédateurs, parfaitement naturelles, avec les mâles dominants et les femelles prises de force, de façon parfaitement naturelle, avec les quelques rares femelles tueuses après la copulation, tout cela, c'est parfaitement naturel. Mais se comporter en humain, justement, c'est à la fois s'inscrire dans cette nature dont nous dépendons, mais c'est aussi s'en extraire. Tant que nous tuerons nos vaches ou nos moutons avec autant de sauvagerie que le lion ou le tigre tue leur proie, nous ne sommes pas des humains, pas encore. Tant que nous élèverons le bétail comme des objets à engraisser, des choses qui n'ont de vivant que leur capacité à produire des protéines, nous ne sommes pas des êtres humains. Tant que nous considérerons que manger, c'est absorber de la matière vivante et de la matière protéique, nous ne sommes pas des humains. Tant que manger se réduit à assumer une homéostasie biologique, à restaurer un corps de producteurs et de consommateurs dans une économie mercantile, nous nous condamnons nous-mêmes à la déshumanisation. <t'->
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, campe ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Bien manger. Mangez bien. Vous entendez, il y a une opposition entre ces deux expressions. Satisfaction du palais, plaisir de la table, convivialité d'un côté. On a bien mangé. Et de l'autre, mangez bien, comme une exhortation, une injonction, qui se prétend écologiste. Impératif moral qui fait du mangeur de viande un arriéré macho sanguinaire et de l'adepte du pudding à la graine de chia le plus vertueux des animaux, des amis, pardon, de la nature. À force d'injonction, à force de culpabilisation, à force de moralisation d'alimentation, on finit par décourager les gens. Je dis les gens, vous, moi, les gens, nous tous. Eh bien, parmi les gens, on estime qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes en France. Ça en fait des gens. 10 millions de personnes qui sont dites en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qui n'ont pas la capacité financière, économique, d'accéder à une alimentation de qualité durable et non industrielle. Qui n'ont pas la possibilité de nourrir leurs enfants comme ils souhaiteraient le faire. Le mode de production agricole dominant conduit et alimente des inégalités entre tous les citoyens. Et ce, au niveau national comme au niveau mondial. On voit ainsi dans les pays dits pauvres des enfants qui sont tout à la fois malnutris et obèses. Et ça apparaît même dans des pays dits riches. Des pays pillés, des pays leurrés par une agriculture intensive destinée à des plus riches et qui demeurent durablement incapables de nourrir leurs enfants. Qu'un traité d'échange que l'on dit libre abreuve de l'autre main d'un Coca-Cola ravageur. Voilà où en est le commerce mondial, voilà où en est la production agricole, voilà où en est la consommation alimentaire. Et vous le pressentez, vous l'entendez. La question est éminemment politique. Quels moyens pouvons-nous, quels moyens voulons-nous mobiliser pour que les gens puissent manger de façon saine et durable? Quels moyens politiques nous donnons-nous pour contrer les lobbies défenseurs des intérêts économiques à court terme, des industries agricoles, de l'industrie alimentaire et des circuits de distribution. Quels moyens nous donnons-nous localement pour instaurer des circuits courts et abordables? Bien sûr, on va me dire qu'on peut agir sur nos habitudes alimentaires, sur nos menus, à l'échelle de la famille, à l'échelle de l'individu. C'est certain. In fine, ça passe par là. Mais demander au seul consommateur d'agir, c'est le rendre deux fois prisonnier. Prisonnier du système d'un côté et prisonnier de sa culpabilité de l'autre. Et les communicants des lobbies agroalimentaires savent parfaitement jouer de ces deux critères. D'un côté, ils font du greenwashing, tout à fait mensonger. Ils flattent les consommateurs bio. Ils caricaturent les opposants. Ils font de la publicité démagogique. Tout leur est bon pour morceler le corps social, pour faire croire que la préoccupation écologique serait réservée à des citoyens privilégiés, à des gens au-dessus des gens. Et puis, il y a pire. Tout est bon pour morceler le corps social, comme je le disais, pour faire en sorte que ce soit des individus finalement privés de moyens qui puissent réagir. Car nous n'avons pas les moyens considérables dont disposent les lobbies en matière de capitaux, en matière de propagande, pour parler comme Ellul. La culpabilisation et les injonctions écologistes risquent fort de faire le jeu de ces lobbies. Ainsi, il y a une majorité de citoyens qui est à la fois consciente des problèmes écologiques et qui pour autant est vivement opposée au discours des écologistes, qui sont considérés comme des donneurs de leçons, de nouveaux ayatollahs rabat-joie. Peut-être que nous avons, nous, en tant que citoyens, et peut-être nous en tant que protestants, peut-être que nous avons une autre parole à tenir. Tenir parole. L'enjeu, c'est de construire ensemble d'autres politiques alimentaires. À Montpellier, on vient d'instituer une campagne autour de ce que l'on appelle les paysages alimentaires. Bravo ! Le chantier est de taille, mais il est à la taille de la métropole et il doit fédérer et faire face à des lobbies au pouvoir considérable. Peut-être que nous avons, nous en tant que protestants, un patrimoine de résistance à mobiliser. Parler de la tour de Constance, c'est très bien. C'est oublier que, avant la tour de Constance et Marie Durand, il y avait une parole qui les précédait, qui la précédait, qui précédait les gens de son temps. Une parole qui disait que une espérance venait vers eux. Une parole qui disait que on pouvait partager la parole. Une parole qui disait que la parole avait de la force. Non pas une parole caricaturale, une parole simpliste qui décernerait des bons et des mauvais points. Non pas une parole qui confondrait la promesse de l'Évangile avec une action écologiste, mais qui, fort de la promesse de l'Évangile, nous permettrait d'incarner, de donner chair à une espérance et à une parole capable de mobiliser une résistance commune, ensemble, avec les gens. Salut ! À la prochaine fois, dans un mois, si vous voulez bien, et entre nous, bon appétit !